France Culture. Les midis de culture. Chloé Cambrelin.
Bonjour et bienvenue dans des midis qui écrivent la mer aujourd'hui. L'été dernier, Simonetta Greggio a sillonné Pélagos, à la rencontre des humains et non-humains qui peuplent, explorent ou tentent de préserver ce sanctuaire méditerranéen entre la Sardaigne, le Var et l'île d'Elbe. Un voyage à découvrir dans le livre « Un été en mer » dont nous allons parler avec elle. Avant de poursuivre avec « Des nouvelles de la mer », recueil auquel a également participé Sigolène Vinson, qui nous rejoindra après le journal en deuxième partie d'émission. Bonjour Simonetta Greggio.
Bonjour Chloé.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors ce livre, Un été en mer, publié dans la collection Monde Sauvage des éditions Actes Sud, vous le co-signez avec Olivier Weber. Mais en réalité, ce sont bien deux expériences que nous lisons, deux récits de ce voyage en Pélagos, sanctuaire de la Méditerranée, pour reprendre le sous-titre de l'ouvrage, qui alternent entre journal de Simonetta et journal d'Olivier. Comment ce voyage a-t-il commencé et pourquoi l'avoir entrepris ?
Alors, c'était une résidence en mer que nous a proposée la Fondation de Monaco. Moi, j'ai été absolument ravie parce que j'adore la mer, mais je ne connais rien à la mer. J'étais une vraie candide. Je suis arrivée un peu avec les mains dans les poches en disant « Quand est-ce qu'on va en mer ?» En fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Avant d'aller en mer, il faut un peu montrer patte blanche. Donc oui, bien sûr, je connaissais. J'allais faire mon snorkeling. Je disais bonjour à mes poissons. Mais là, tout d'un coup, de voir surgir en mer des cachalots, des rorquals, des globicéphales, des dauphins, des tortues, kawan, des raies. Enfin, ça a été la danse des raies, mais c'est quelque chose qui met les larmes aux yeux, tellement c'est beau. Et on a ça en Méditerranée, dans le sanctuaire Pélagos, qui est le sanctuaire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui va de hier à l'île d'Elbe, qui englobe complètement la Corse pour aller jusqu'en Sardaigne, le nord de la Sardaigne. Donc c'est une portion de mer qu'on a sanctuarisée, dans laquelle on essaye de faire en sorte que les choses aillent un peu mieux que dans le reste des océans, de l'océan de la planète. C'est une mer qui nous est chère, hein, parce que c'est notre berceau. Donc Olivier a fait toute cette partie, je dirais, légendaire, mythologique, très... C'est
dans
travail.
Les mythes,
oui,
l'histoire.
Oui, c'est voilà. Ça. Et moi, je suis plus allée dans le côté... j'ai envie de savoir ce qui se passe pour de vrai. Moi, j'étais comme une petite fille qui découvre, en fait, ce qu'elle pensait être un rêve.
Alors, bien sûr, nous vous connaissons, Simonetta Greggio, pour vos romans « La douceur des hommes » Dolce Vita, Bellissima, récemment « Mes nuits sans bardo ». Nous vous connaissons aussi pour vos grandes traversées sur France Culture ces dernières années, Virginia Woolf, Brigitte Bardot, Benito Mussolini. Mais ça n'est pas ça qui est écrit en quatrième de couverture du livre « Un été en mer ». Non, ce qui est écrit à propos de vous, c'est « Dernièrement, elle a travaillé autour de thématiques écologiques. Elle aime les chiens et les arbres. Elle ne mange pas d'animaux ». Que veut-il dire ce « dernièrement » de « dernièrement, elle a travaillé autour de thématiques écologiques » et comment y êtes-vous donc venue à ces thématiques ?
Vous savez, j'ai été pendant, avant de devenir écrivaine, donc il y a une vingtaine d'années, de publier, parce que j'étais déjà écrivaine dans l'âme, j'étais critique gastronomique pendant très très longtemps pour le Figaro, etc. Donc je mangeais le monde entier. J'ai fait mon petit travail de complice de ce système qui fonctionne très mal, où les animaux sont des proies de l'homme. Et ça, j'ai mangé tout. Je mangeais des singes, des pitons, des crocodiles, je ne sais pas ce que je n'ai pas mangé. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais stop quoi, on arrête les conneries. En fait, petite fille, j'étais totalement avec les animaux. Ensuite, pour faire plaisir d'une certaine manière à mon père et rentrer dans ce monde des adultes, donc la femme avait un rôle, l'homme avait un rôle, etc. J'ai mangé de la viande, mais pour moi c'était quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Je l'ai fait malgré moi et ensuite j'ai pris le pli d'être complice de ce monde. Et à un moment donné, j'ai dit stop, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Si Saint-François d'Assise a eu la possibilité de changer alors qu'il avait eu une vie de patachon jusque-là, je peux le faire aussi. Je veux changer le monde, très bien, je vais commencer par changer les choses pour moi.
On va se concentrer sur les deux gros souffleurs, donc le cachalot et donc le rorqual. Je vous ai pas dit que le Roercal peut faire jusqu'à quand même 40 tonnes, mesuré jusqu'à 16 mètres. C'est un gros souffleur. On peut rencontrer dauphins. Donc les dauphins, si on en croise, ils peuvent être fort discrets. On peut ne pas les voir du tout. On peut voir quelques ailerons. Ou alors ils peuvent être très joueurs et venir au bateau. Ou avoir des interactions au large, ça sera plutôt les bleus et blancs.
Vous la connaissez, cette voix, vous la reconnaissez.
Oh là 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 là.
Simonetta Greggio. Qu'est-ce qu'on entend là?
C'est Anne Settimelli, donc, qui a créé de toutes pièces Explore et Préserve, dont je fais partie, et qui a été l'initiatrice de ces rencontres du troisième poulpe qui ont eu lieu il y a 2 semaines à hier, et qui ont été des rencontres pour moi absolument fondamentales. On était beaucoup d'autrices et quelques auteurs, quelques garçons autour de la table pour se dire qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire, comment réfléchir le monde ensemble et qu'est-ce qu'on peut se raconter nous pour aller plus loin. Donc voilà, elle m'a un peu initiée à ce monde-là parce qu'elle connaît très bien. Et ça a été un bonheur de travailler à ses côtés pour découvrir ce qu'elle connaissait déjà. Mais moi, ouais. Je lui ai fait découvrir des choses aussi.
On imagine bien. Alors, c'est elle qui est à l'origine du recueil des nouvelles de la mer dont nous parlerons tout à l'heure avec Sigolène Vincent. Mais c'est avec elle aussi que commence le récit de votre été en mer.
Oui, je l'ai appelée la reine des tortues parce qu'elle va très lentement, mais elle va sûrement là où elle veut.
Alors là, on l'a entendu dans un extrait de la série documentaire « Comme un poisson sous l'eau » réalisé par Élise Gruau et Agnès Catou pour France Culture. Dans ce son qu'on a entendu, elle est à bord d'un bateau au cœur de ce fameux sanctuaire Pélagos. Et on voulait l'écouter un peu en situation parce que votre récit, c'est vraiment un récit en situation. On le disait un peu tout à l'heure, mais vous n'avez pas choisi de partir dans des grands développements contemplatifs. C'est très concret, c'est très direct, c'est sur le vif.
Oui, c'est la sardine, l'anchois. Moi qui étais une consommatrice absolue d'anchois, la tartine aux anchois et beurre, c'était vraiment mon petit péché mignon. Là, j'ai été quand même avec elle sur ce bateau de pêche, un grand bateau de pêche qui part de Sestri Levante et qui fait toute la Ligurie. Et j'étais avec elle, on a passé une nuit entière à côté de ces hommes qui vivent sur ce bateau 6 mois par an, qui sont des Siciliens assez pauvres, qui parlent un dialecte très strict, avec un commandant assez despote, faut dire les choses, et qui sont là pour gagner 3 francs 6 sous avec des caisses d'anchois qui ensuite finissent au marché et qui sont achetées un peu aux enchères, c'est-à-dire que moins il y a d'anchois, plus ça vaut cher, etc. Donc j'ai découvert un monde extraordinaire avec elle, à ses côtés, mais le monde aussi, nous on avait tourné notre pull où il y avait marqué Explore et Préserve pour ne pas heurter finalement leur sensibilité. Parce que que font 2 écolos sur un bateau de pêche si ce n'est pour être des espions, en quelque sorte. Ça n'était pas du tout notre idée. On a vraiment été extrêmement respectueuses. À la fin de la nuit, on a eu la possibilité de rejeter en mer des mola-mola, qui sont des poissons lunes extraordinairement beaux, qui sont un peu lignés, qu'on ne mange pas. Mais si on n'avait pas été sur le bateau, les poissons seraient morts. Il y avait une quarantaine de bébés poissons, de juvéniles de mola-mola. Et si vous voulez, rejeter en mer ces bestioles qui seraient mortes bêtement, sinon, c'est juste se dire... Il y a quelque chose à faire avec eux aussi. Il y a un respect de la mer qu'ils n'ont pas, mais parce qu'ils ont une autre éducation à la mer aussi, qui est une éducation de ressources et non pas de biodiversité. Mais il faut dialoguer.
On va y chercher ce qui nous fait vivre.
Voilà.
En fait.
Si on ne dialogue pas, on ne va pas y arriver.
Alors, vous racontez effectivement que pour embarquer avec ces pêcheurs italiens pour la pêche aux anchois, il a fallu, je vous cite, leur faire une cour assidue pendant plus de 2 mois.
Bien
parce
sûr.
Que, mine de rien, vous pénétrez aussi dans leur univers d'une certaine manière. Et donc, pour revenir quand même sur la façon dont c'est écrit ce récit, je disais sur le vif, etc. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est sur le bateau avec
vous. À mes côtés.
Voilà, c'est ça.
C'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais parce que je me disais, mais en fait, qui me raconte ça? J'ai toujours des grands récits magnifiques, des capitaines. J'étais une vraie lectrice de ça quand j'étais petite fille. J'adorais ça. Mais la mer au quotidien, des pêcheurs, des gens qui vivent de ça, qui sont en mer quotidiennement. La mer, c'est pas du tout la plage qu'on voit, nous, à Saint Saint-Tropez avec les pieds dans le sable. C'est pas du tout ça. La mer est tueuse. La mer est une assassine. Elle est hyper dangereuse. C'est quand, moi, je me suis retrouvée à dormir dans la petite bulle, si vous voulez, du skipper sur un catamaran. J'étais avec François Sarano et Véronique Sarano pour regarder un peu comment ça se passe dans l'observation des cachalots. Ben, ça fait super. Ça fout la trouille, quoi. Mmh. Vous êtes en pleine mer. Vous voyez la mer. Vous l'avez sous vos fesses. Vous l'avez au-dessus de vous. Et vous êtes dans la mer, dans une bulle. Et vous n'imaginez pas la trouille que vous avez de tous ces animaux, des abysses qui vous entourent, en fait. Et la mer est pas du tout bienveillante. C'est sacrée bonne femme, quoi. Enfin, moi, je la vois en fille, parce qu'elle est, je la vois pas en mec, en fait, la mer. Mais ça fout la trouille, vraiment, quoi.
Alors, vous dites donc, à un moment, vous le dites à Anne Settimelli, justement, dans le livre, je veux essayer de comprendre comment ça se passe.
Ouais.
Et donc, c'est effectivement ce que vous avez fait. Essayer de comprendre comment ça se passe, c'est tout ce que vous nous dites là. Et le raconter, ça veut dire aussi raconter l'attente. Parce que, comme ça vous est dit à un moment donné, la mère, elle répond quand elle veut. Et il y a beaucoup de moments qui sont de l'attente, que ce soit pour la pêche ou pour aller voir des cétacés. Il y a beaucoup de moments dans ce livre où, en fait, juste vous attendez.
Bah, moi, je prenais ma voiture, j'habite dans le sud, heureusement. Je prenais ma voiture et j'allais passer la nuit dans ma voiture pour attendre. Il fallait que j'embarque à un moment donné, mais la mer était pas bonne, mais il y avait pas les cachalots, mais le capitaine n'était pas dispo. Et les nuits que j'ai passées en voiture à attendre juste de pouvoir être en mer. Donc déjà dans l'attente, vous vous faites un film. Mmh. Vous êtes déjà dans la mer sans être dans la mer. Qu'est-ce qui va se passer quand vous y serez vraiment? Ça a été c'était une aventure, une réelle aventure. J'en suis sortie, j'avais 10 kilos de moins et j'étais bronzée jusqu'à l'os. Mais c'était génial, en fait. J'attendais ça depuis super longtemps. Ça a été pour moi une vraie l'aventure de la mer, quoi.
Enfin, nous larguons les amarres. Le capitaine est confiant. Il sait que plusieurs cachalots ont été repérés au large. Nous nous dirigeons vers eux. Une fois arrivés au point GPS, nous immergeons l'hydrophone. Je descends rejoindre Katerina à la station scientifique. Elle est absorbée par l'écran et les sons qu'elle entend. Il remontera dans 3 minutes, murmure-t-elle. Je retourne sur le pont. Soudain, il apparaît juste devant moi. Cette merveille gris-ambre, cet éléphant des mers, ce loup-garou océanique. Ma voix se coince, incapable d'appeler les autres qui regardent ailleurs. Pendant quelques secondes, ce cachalot est tout à moi. Puis je crie « Cachalot à 17h !» Il est à nous tous maintenant. Je me couche sur le pont, essayant d'attraper son regard avant qu'il ne sonde 20 minutes plus tard. Alors que sa queue se soulève dans les airs avant de plonger, j'entends un son de trompette, comme un rire. Ai-je rêvé? Quand j'en parle autour de moi, on me dit que j'ai dû l'imaginer. Plus tard, les biologistes à bord m'expliquent qu'il s'agit d'un son émis précisément par le cachalot au moment de la plongée. Ce son particulier vient s'ajouter au vaste et complexe répertoire vocal de ces animaux qu'ils étudient depuis longtemps. On l'appelle un trumpet. Je n'avais donc pas tout à fait rêvé. Sabina Eroldi, directrice du projet Tétis, me dit au téléphone. Hier, sur le Pélagos, vous avez vu Freddy, un mâle adulte. Nous l'avons identifié pour la première fois en 2010, accompagné d'un autre mâle, Harald. Freddy avait une profonde blessure devant la nageoire dorsale, probablement causée par une hélice ou un filet de pêche abandonné. Nous l'avons revu plusieurs fois, mais il a disparu quelques années avant de réapparaître en 2017. Depuis cette année-là, nous l'avons vu à plusieurs reprises dans les eaux de la Ligurie occidentale, le plus souvent en compagnie de son ami Harald. Il a survécu et s'est rétabli, contrairement à de nombreux autres cachalots qui sont morts à la suite de collisions avec de grands navires. Il faut en parler. En parler encore et encore, car la mort d'un cachalot est une perte pour l'humanité. Un cachalot tué, c'est une forêt en flammes, un pays inondé. Une catastrophe pour nous tous. Nous ne le savons pas assez.
Extrait de votre récit dans ce livre « Un été en mer », Simonetta Greggio, lu par Lisa Dejode. Nous ne le savons pas assez. Et c'est sans doute pour ça que vous insistez dans ce livre sur cette question des collisions qui sont la première cause de décès non naturels des cétacés en Méditerranée.
Oui, ainsi que les virus, ainsi que l'ingestion de plastique, ainsi que tout ce que l'homme fait qui leur nuit terriblement. Et on ne sait pas qu'en fait tout ce qu'on fait en terre arrive en mer, tout ce qu'on fait nous de mal est décuplé dans la mer et que cette mer nous sert c'est un énorme réservoir de vie. On ne sait pas à quel point l'échange de CO2, l'oxygène que nous respirons vient de cette mer. On ne sait rien de tout ça et on ne le sait d'autant plus pas dans les villes où j'ai des amis qui continuent de consommer des animaux et je n'arrive plus trop à leur parler parce que je me dis mais qu'est-ce que je peux faire de plus pour communiquer que non. Qu'il faut arrêter tout ça, que ça, on est dans une fracture du monde actuel où on ne peut pas continuer à faire semblant qu'on ne sait pas. On le sait tout ça. Alors c'est quoi? C'est le cœur qui est pas assez ouvert? C'est que la vie est trop dure pour le savoir? Moi, ça me fait pleurer. Alors, je les aime et j'ai envie de leur parler de tout ça, mais j'ai pas envie non plus d'être lourde. Donc j'écris des livres et j'en parle à la radio autant que je peux. Mais pour moi, un cachalot qui meurt, oui, c'est une forêt qu'on rase, c'est un feu de forêt, c'est tous ces animaux dont on respire les cendres. Moi, j'habite dans le sud. Quand il y a un incendie, je pleure et je pleure pas que parce qu'il y a de la cendre dans les yeux. C'est parce que c'est tous ces animaux que j'aime et qui sont en train de brûler et que je respire. Et c'est ça qui nous arrive en ce moment. Nous respirons la cendre des animaux que nous mettons à mort. C'est plus possible de continuer comme ça. L'homme est un loup pour l'homme, mais bon sang. Mais pour les animaux, c'est juste une catastrophe.
Alors, vous écrivez des livres et vous donnez la parole dans ces livres aussi à d'autres. Et sur cette question des collisions, j'y reviens. Il y a quand même un moment du livre où un capitaine vous raconte sa rencontre avec la mort, le jour où son bateau a assassiner un cachalot, et c'est lui qui emploie ce terme.
Il utilise ce mot, oui, c'est un monsieur dont j'étais le nom, parce que tout le monde le connaît, hein, sur Pélagos, évidemment, mais il a changé de vie ce jour-là, c'est-à-dire que cet homme-là est devenu l'un des initiateurs de Pélagos, l'un des initiateurs de c'était souffleur d'écume à l'époque, mais vraiment, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un homme qui, tout d'un coup, s'est dit, non, c'est pas possible. Mais on n'est pas obligé d'entrer en collision avec un cachalot pour se rendre compte que je sais que, enfin, je regarde vos yeux et je sais que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et je sais que quelque part, on a la voix qui tremble quand on dit ça parce qu'on a l'impression de répéter la même chose sans arrêt, sans que ça arrive à notre cerveau vivant, sans que ça arrive à notre cœur vivant, sans qu'on comprenne dans notre peau que non, c'est plus possible.
Il n'y a pas besoin d'assassiner un cachalot pour s'en rendre compte. Il y aurait besoin, par exemple, juste d'accepter que, c'est un exemple que vous donnez aussi, que les liaisons entre le continent et la Corse durent un peu plus longtemps. Parce que si les bateaux vont moins vite, il y a moins de risques d'accident, par exemple.
Oui, Monsieur Macron est venu sur l'UNOC, vous savez, à Nice.
Le sommet, oui.
Voilà. Et il a dit, oui, absolument, il faut ralentir tout ça. J'ai bien compris, c'était l'exigence, la nécessité de tout ça. Le jour après, il était à un truc de la tech, et il a dit, ouais, on va y aller, on va accélérer, tout ça. Voilà, ça, c'est les deux mondes dans lesquels on vit et qui sont tout le temps en collision entre eux.
Alors restons encore un peu avec les cachalots, Simonetta Greggio. Nous allons écouter une autre personne que nous croisons dans votre été en mer. Vous avez dit son nom tout à l'heure, c'est François Sarano, plongeur et océanographe.
Nous avons, semble-t-il, trouvé un accord. Nous ne nous comprenions pas et pourtant nous avions trouvé une manière de communiquer. Et soudain, stupéfaction, alors que d'habitude les cachalots n'utilisent envers les plongeurs que cette... ce cric, ce buzz, dont on ne connaît pas très bien la signification, mais qui est quelque chose qui semble à la fois interroger et puis voir un petit peu dans quel état on est. Tout d'un coup, Elliot s'est mis à lancer des codas. Des codas à 8 clics et il n'y avait aucune équivoque. Il me demandait un câlin. Dans son langage, pas une fois, mais 40 codas pendant ces 7 minutes. 40 codas. Pendant ces 7 minutes, avec une intensité très forte, Elliot a voulu m'apprivoiser. avec force, encore une fois, attitude corporelle, danse et approche, et donc coda. Et ça, c'est bouleversant, parce que non seulement le moment est d'une intensité incroyable, un animal sauvage, libre, indompté, qui vient sans contrepartie vous apprivoiser. Et cette demande est bouleversante parce que cela montre plusieurs choses. D'abord, que nous, les hommes, n'avons pas le monopole de la curiosité, hein, que les cachalots, eux aussi, viennent étudier les hommes, viennent découvrir autre chose que leur monde propre. Ils s'intéressent à la différence, ils s'intéressent à l'altérité. Bien que nous ne nous comprenions pas, que je sois sûr que je ne le comprends jamais, nous avons trouvé cette distance juste. Et dans cette relation dépouillée et authentique, on s'est compris suffisamment pour être bien, l'un avec l'autre, l'un à côté de l'autre, sans soumission, juste avec cet échange de danse et ce moment de paix.
Extrait d'une autre série documentaire, Oublié Moby Dick, d'Aline Pénito et Gilles Mardi-Rossian, à retrouver toujours sur le site de France Culture. Ce qui est intéressant, là, Simonetta Greggio, bon, outre le plaisir d'entendre, voilà, c'est que ce que François Sarano dit de la relation, en fait. C'est-à-dire que ce qu'on entend là aussi, c'est que, en fait, ces grands mammifères marins sont dans le même vivant que nous et ne sont pas un décor pour les humains, en fait.
Plus que ça, nous, on dit les cachalots, mais en fait, chaque cachalot est à sa personnalité. Chaque cachalot, chaque dauphin, chaque rorqual peut être timide ou alors extroverti ou alors un vrai salopard ou alors une adoration ou alors Elliot. Visiblement un vrai lien avec François, avec Véronique. Il ne faut pas oublier que Véronique qui
vous
est derrière
aussi, tout à fait.
Voilà, Véronique est derrière François, qui est toujours à ses côtés. On l'entend beaucoup moins parce qu'elle est vraiment aux manettes. Et voilà, il y a des vraies bonnes volontés qui vont vers l'animal. Et quand je vois Sarano, comment il communique, moi je l'ai vu sur le bateau, j'étais quelques jours avec lui, c'était juste incroyable comment il est là, on dirait un prophète mythologique qui vous parle un langage ancien que vous comprenez presque par le cœur, plus qu'encore que par la tête, c'est-à-dire qu'il analyse pas les choses, il sent les choses, il vous dit les choses, il est là depuis Cousteau, donc il les a vraiment côtoyés.
Ouais, c'est ça, mais justement, lui, il a 50 ans d'expérience avec les cachalots, et ce qu'il faut dire aussi, Anne Settimelli le dit dans le documentaire dont on a entendu un extrait au début quand elle accueille comme ça des gens sur les bateaux, c'est que là, voilà, la relation qu'il a, Sarano, avec les cachalots, c'est le fruit des années et des années et des années de travail et de lien avec eux. Mais au quotidien, pour le commun des mortels, on va dire, c'est pas des doudous non plus, les dauphins.
C'est
et les
pas
cachalots,
des doudous. Voilà. Regardez l'histoire de l'ours qui s'est passée il y a 3 ou 4 jours. Un pauvre touriste italien s'approche trop des ours. L'ours, qui était une maman qui avait 3 petits, n'est pas très contente, elle le tue. Finalement, l'homme meurt, l'ours meurt et les petits vont mourir. Ça, c'est s'approcher trop des animaux. C'est pas des peluches, hein.
Voilà,
les cachalots, les ours, les loups, c'est pas des peluches. Ce sont des animaux qui ont tout à fait le droit, comme nous, d'habiter cette terre et il serait temps qu'on les respecte en tant qu'animaux et non pas en tant que domesticité. Ils ne sont pas nos domestiques, ils ne sont pas nos servants, ils ne sont pas nos proies, ils ne sont pas notre bouffe. Ça, c'est la vieille histoire que l'homme s'est mis à deux pattes parce qu'il a mangé de la viande. C'est vraiment des vieilles histoires qu'on nous a racontées. C'est du storytelling capitaliste et vraiment qui va à l'encontre de toute réalité. Biologique. L'homme est un opportuniste en ce qui concerne la bouffe. Donc, qu'on n'aille pas me raconter que la viande est absolument nécessaire sur cette terre parce que c'est de la bêtise.
Alors, depuis tout à l'heure, moi je dis dauphin, baleine, cachalot, cétacé. Ce qui ressort aussi quand même de votre récit, c'est qu'au-delà de ces noms, le vocabulaire de cet univers marin, il est très riche, il est très précis. Et c'est d'ailleurs aussi à le lire qu'on mesure un peu notre ignorance, en réalité.
Oui, j'ai du mal à l'apprivoiser, parce que qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise. Je savais pas que le cachalot sonde, l'histoire de la trompette. On m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais en fait, c'était vrai. Donc, en fait, il faut s'y approcher avec son cœur d'enfant et y aller, et comprendre. Et tout ce monde-là est un monde merveilleux. C'est pas que le grand bleu, c'était absolument magnifique qu'on s'y approche. proche, il fut un temps, mais maintenant il faudrait le réapprocher autrement. Et Anne, c'est ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle fait de la sensibilisation avec les enfants, elle amène les enfants en mer, elle leur montre ce que c'est que ce monde marin, et ils sortent de là. Bon, ils ont peut-être vomi dans la mer, c'est pas très grave, mais au moins ils sortent avec une vraie idée de ce que c'est que la mer, et pas simplement faire des châteaux de sable sur la plage. Mais je voulais revenir au, un instant au dauphin. Il y a ce livre magnifique de Fabienne Delfour, Dans la peau d'un dauphin, qui est juste là aussi quelqu'un qui part de l'intérieur, donc qui nous raconte de l'intérieur avec 30 ans d'études et de connaissances ce que c'est qu'un dauphin, et c'est autre chose que ce que nous voyons dans les parcs d'attractions avec les orques et tout ça, qui sont, voilà, là encore, ils ont rien fait de mal, pourquoi ils sont en prison?
Fabienne Delfour, qui fait partie des auteurs et autrices du recueil des Nouvelles de la mer aussi, dont on va parler tout à l'heure, Simonetta Greggio. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce récit Un été en mer, il est traversé d'écoféminisme. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet aspect des choses et aussi de comment vous en arrivez là, parce que je crois que ce rapport-là au monde est devenu quand même important pour vous.
Il est devenu important à un moment donné dans mon histoire de femme et dans mon histoire d'écrivaine, où j'avais l'impression que j'avais un peu fait le tour de mes romans. J'avais déjà écrit une dizaine de romans. C'était un peu moi, il, elle, lui, oh, il m'a trahi, oh, elle m'a trahi, oh là là, qu'est-ce que je suis malheureuse, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? J'en avais tellement marre de tout ça. En quelque sorte, j'avais un peu donné, j'avais adoré écrire des histoires d'amour. J'adore les écrivains, j'adore Jane Austen ou Léo Durlet. C'est pas un problème, ça. C'est qu'on passe dans un autre monde et il va falloir qu'on voit les choses autrement, que la vision, notre vision sociétale change, notre modèle sociétal change. Où ce sont les femmes, les enfants, les arbres, les chiens, les animaux qui nous entourent, qui deviennent en fait les sujets de ce grand homme blanc qui devrait être impien, qui devrait être le gourou ultime. Tout ça, c'est stop. Là encore, stop, quoi. C'est une vision du monde qui est vieille, qui est dépassée et avec laquelle on va contre un mur, parce que on ne s'arrête pas de produire, de consommer, et de consommer quoi? De consommer la terre, de se consommer nous. Ça, c'est mon idée écoféministe. Alors, évidemment, quand je la tiens devant 100 personnes, il y a beaucoup de femmes qui viennent me dire, oh là là, mais effectivement, je vois les choses un peu différemment, vous avez fait bouger quelque chose. Et il y a des bons hommes qui viennent me voir, qui me disent, oh là là, mais vous savez, vous mettez en danger notre société en tenant des discours pareils. Je leur dis, mais c'est, j'espère que vous allez comprendre. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous devez arrêter de vous conduire comme ça. On n'est pas vos esclaves, on n'est pas vos domestiques, ni les femmes, ni les enfants, ni les animaux, ni cette terre. Stop.
Et donc tout ça est lié, et c'est aussi en mer que vous
pensez à
tout ça.
Mais bien sûr, c'est la même chose. Voilà. C'est la même chose. C'est capitaine quand il me dit, mais en fait le dauphin, si je le pêche dans mes filets, je le tue et je le rejette à la mer. C'est un salopard.
Il sert à rien. Il dit
ouais, ça. Il sert à rien. Il me dit, il bouffe, il chie, il sert à rien. C'est génial. Ce mec en fait, qui est là depuis 60 ans en mer, qui aime profondément la mer, qui vit de la mer, mais il a rien compris à la mer parce que c'est un vieux mec blanc qui a rien compris de rien. Donc je vais pas lui dire, je vais pas lui faire la leçon. Mais franchement, arrêtons quoi.
Chucciarella, Barbara Carlotti, qui est également dans le recueil des Nouvelles de la mer, dont nous allons parler avec vous et avec Sigolène Vincent, Simonetta Greggio, juste après le journal qui arrive.